Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant de faire le championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours hein, avant de l'avoir vendu.
C'est une production que j'aime bien aussi, donc voilà, c'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Bribois.
Ils sont là jusqu'à minuit, Jérôme Rotten, Kevin Diaz, Jérémy Lopez et Baptiste Le Caplin. Concluons sur Bordeaux avant de parler de l'OL. On vous attend, hein, supporter lyonnais.
Attends, je suis obligé de venir. D'ailleurs. J'écoute tous les jours en podcast, je suis obligé de venir pour parler de Bordeaux.
Non, on a laissé parler.
Le pire, c'est qu'il va se réécouter demain matin en podcast.
Mais alors, quand je passe, je m'écoute pas le lendemain.
T'as vu que demain, je fais team du gars. Bon, tant pis.
On t'a pas coupé du tout, hein.
Merci, Jérôme.
Alors, est-ce que vous y croyez, vous, à Paulo Sousa?
Non, mais c'est pas, moi, je veux bien entendre, ouais, c'est un bel entraîneur. Un bel homme, il est c'est cool avec tout le monde, ça, il a structuré
un,
le.
Un non, très bon entraîneur.
Non, mais. Oh, mais oui, parce que moi, je commentais les matchs en Italie avec une autre chaîne à l'époque, il était entraîneur de la FIO, et franchement, à la FIO, il n'avait pas un effectif de folie, qui était supérieur à celui de Bordeaux, ça sans aucun doute, mais ça jouait bien. Et les gens prenaient du plaisir à avoir joué cette équipe, donc oui, en effet, il y a des arguments de ce côté-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu entraînes Bordeaux, même son arrivée. Avec l'aura qu'il a, ça fait parler et tout ça. Même si les joueurs, en effet, il y a une revue d'effectifs, il a voulu tester, il a fait beaucoup de changements, il y a eu des blessés, c'était pas facile. Mais quand même, t'alignes 6 défaites de suite, quoi. 6 défaites de suite, il y a pas de répondant, c'est une équipe qui est complètement amorphe. Alors je veux bien qu'elle a vécu une année compliquée, que ces joueurs-là.
On a tout eu cette année. On a même eu la mère de Kalou qui s'est faite kidnapper. On a quand même eu des trucs complètement hallucinants. Mais cette année, c'est n'importe quoi.
Mais t'es d'accord avec moi quand même que mine de rien, pour l'instant, c'est un échec. Alors je veux bien, il faut attendre, d'accord. Ok, on va attendre l'année prochaine le recrutement, voir ce qu'il met en place. Tout est bien structuré. Moi, j'entends tout ça. Mais moi, ce qui est le rôle important d'un entraîneur, je sais pas. Quand t'as un entraîneur face à toi. Que t'es un jeune joueur ou un joueur un peu plus expérimenté, ce qu'il a à Bordeaux, hein. Il y a des joueurs expérimentés. Putain, lui, il arrive sur le banc. T'as l'impression que les mecs, ils ont pas envie de se bouger, quoi. Ils sont dans le confort.
Ils sont pas dans le confort, mais en plus t'as un changement. Non, mais vraiment le changement de dispositif tactique, il est aussi, ouais. Il est aussi. Non, attends. Mais
Jérôme, le 3-4-3, c'est pas facile à mettre en place.
C'est pas un truc
surtout pour des joueurs. Et surtout que pour des joueurs français qui sont pas vraiment habitués.
Et tes trois défenseurs centraux, t'en avais deux qui étaient soit expulsés, soit franchement Jovanovic, Pablo, ils ont alterné. Ils ont jamais été les trois alignés ensemble deux matchs de suite. Enfin,
d'accord. Donc en fait, vous êtes en train de m'expliquer. Et ce qui est encore plus grave, c'est Kevin qui est là, qui a joué quand même un certain niveau. Il est en train de me dire que parce qu'il y a un changement de tactique, donc les joueurs, c'est normal.
Intrinsèquement, ils sont faibles. Les joueurs sont faibles. Enfin, le mec bankable de notre mercato cette année, c'était François Camano. Alors moi, François Camano, je l'aime bien. Je le vois dans le vestiaire, il dit bonjour, on se parle à peine. Mais François Camano, si François Camano, c'est la star. Non mais attends, c'est ce que je te dis. Si François Camano, c'est la star de notre mercato, c'est te dire le niveau intrinsèque de l'équipe. Donc t'as des joueurs en devenir qui sont très bons, mais autour t'as pas des stars.
Au niveau des besoins de barbe de Sankaré, ça va mieux.
Non mais Younous Sankaré, c'est un joueur qui a apporté énormément de choses à Bordeaux cette année. Il y est pas du tout. Cette année, il est. Mais c'est le premier à te dire qu'il a pas été bon.
Younous, c'est un bon joueur.
Jérôme,
c'est un bon joueur de foot vraiment.
Mais Sankaré, c'est un bon joueur.
Non mais c'est
un bon joueur Sankaré.
Je le connais bien. Younous, c'est un bon joueur et c'est vrai qu'il vit une saison compliquée. Mais même lui, ce que je veux dire, c'est que quand t'as l'arrivée d'un coach comme ça, qui a un coach qui est joueur aussi, quand t'as un système qui change, ok, que ça prenne du temps, mais tu me parles d'effectifs, Baptiste, quand même. Écoute, on a regardé le championnat de France, qui est pas le meilleur championnat en Europe, et encore moins cette année, c'est une catastrophe cette année. Non, mais Jérôme, le niveau des matchs et
Baptiste,
tout ça.
Baptiste, je viens de te répéter plusieurs fois que cette équipe, ce club, a vécu beaucoup trop de péripéties pour cette saison. Il te dit qu'il y a un nouvel entraîneur qui arrive avec des nouvelles idées, avec un schéma tactique, comme je t'ai dit, qui est pas forcément facile à mettre en place. Tout ça fait que sur cette saison, tu as raison, ça a pas marché. La chose qu'il faut dire, c'est que, voilà, ce mercato d'été, cette intersaison, ça va être primordial pour l'avenir des Girondins de Bordeaux, dans le sens où t'as un entraîneur qui va pouvoir retravailler son effectif. Apparemment, il s'entend bien avec sa direction sportive.
Bastia voulait diriger un club avec Paulo Sousa à sa tête. Maintenant, il a l'entraîneur qu'il voulait. Voilà. Ils vont avoir
Tu sais qu'en préparation, on a quand même. Non, mais écoute,
je te dis pas qu'on va se régaler.
Peut-être. En tout cas,
ils vont. Je pense qu'il faut attendre.
Il faut qu'on peut. Enfin, je trouve que c'est très compliqué de juger un entraîneur sur une demi-saison.
Bien oui, sûr. Exactement.
Et le mec qui débarque, il s'installe et même ouais, c'est sans parler de tactique, non, en fait, c'est tout la totalité
ça,
du truc.
D'accord. Mais après, ça n'empêche que tu peux avoir des meilleurs résultats quand même. Non.
On conclut sur les Girondins, Baptiste, un dernier mot si tu veux.
Non mais ça, cette année, ça, on a eu deux propriétaires différents, trois présidents différents, on a eu quatre coachs si on compte Bédoué et Ricardo. Enfin, c'est
toujours Bédoué aussi.
Eric Bédoué, il est encore dans l'encadrement, il est revenu en préparateur physique, ouais. Mais en tout cas. Il n'y a jamais eu à Bordeaux, et ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu ça.
Numéro 1, entraîneur.
Qu'est-ce qu'il a pas fait, Bédoué?
Préparateur physique adjoint.
Il n'a pas été, Eric Bédoué, heureusement qu'on l'a. C'est un homme de club. En tout cas, à Bordeaux. on n'a jamais eu ça depuis très longtemps. C'est une organisation sportive, c'est un triangle, c'est Varela, Massia, Paulo Souza, et l'extra sportif sera géré par Frédéric Longuepé. T'as plus quelqu'un qui gère tout comme ça, comme c'était le cas à l'époque.
On conclut avec Anthony, qui est supporter des Girondins. Salut Anthony.
Ouais, bonsoir messieurs.
T'es d'accord avec Baptiste sur tout ce qu'il dit là?
Alors avec Baptiste plus ou moins, par contre avec Jérôme pas du tout.
C'est normal.
Donc du coup en fait quand tu dis que c'est un échec à l'heure actuelle. Alors en termes de résultats, effectivement, t'as 6 défaites. Mais après, faut voir plus loin que ça. C'est-à-dire que là, en fait, il est en train de préparer la saison prochaine avec des joueurs où il s'est passé volontairement de certains joueurs comme Caramo, comme Palencia, comme deux ou trois autres. Et je pense très honnêtement qu'il sait où il va. Moi, quand j'entends Souza en conférence de presse. Mais je crois que c'est un des seuls entraîneurs qui me fait écouter une conférence de presse entière, quoi.
Exactement.
C'est-à-dire que le mec, il respire le football. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? J'en sais rien. Dire au jour d'aujourd'hui que c'est un échec, pour moi, c'est une erreur. Parce qu'on lui fait un faux procès. Maintenant, moi, j'attends de voir ce qui va se passer quand il va choisir ses joueurs, son équipe, et on va voir après le mercato ce qui va se passer et dans les 5, 6, 10 premières journées, on va voir ce qui se passe et là on pourra faire un premier bilan. Mais là c'est trop tôt. Moi quand je l'entends parler, enfin ce mec-là, franchement, il mérite qu'on soit patient avec lui. Alors parler d'échec, non, je pense que c'est trop anticipé.
C'est un départ.
Maintenant, au bout de 10 journées.
Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Anthony, mais on peut dire que c'est un départ raté. Voilà. Dans des conditions difficiles. On va dire qu'il a pas eu les résultats escomptés sur ses premiers matchs, même si on l'a répété, il y a eu des circonstances atténuantes. Et comme je disais, je pense que voilà, cette intersaison, elle va être très importante.
Il va falloir
qu'il construise son équipe et qu'il arrive à travailler.
Le mercato a déjà commencé. Et Jérôme, tu peux pas, dire, ils ont déjà bouclé l'arrivée de Mexer, le défenseur de Rennes. Tu vas pas me dire que c'est pas une mauvaise recrue.
C'est une très belle recrue.
Gratuit.
Oui.
C'est vrai. Et je sais que déjà, il travaille.
Ça a rendu fou Julien Stéphane, d'ailleurs.
Benoît Costil, je sais qu'il a vachement appuyé pour que Mexer vienne parce qu'ils se connaissent de Rennes et tout. Voilà, ils ont envie de s'appuyer sur des cadres aussi. Ben Costil, c'est une des rares satisfactions de la saison. Ben Costil, il a fait une saison, il nous a rapporté des points.
Top, les gars, faut qu'on passe à Lyon.
Ils vont se caler sur des joueurs comme ça.
Juste, on me défend, tout le monde m'attaque.
Non,
Pas du tout. Moi, je réponds à Anthony, même à Baptiste. Ce que je veux dire, j'ai pas dit que c'était un échec, qu'il fallait dégager et couper la tête à
Paulo Souza. Il est en répétition, là.
Pas du tout. J'ai juste dit que oui, en effet, quand tu vois les dernières perfs, je comprends, le changement tactique, les compositions d'équipe, les joueurs qui sont en prêt, qui vont repartir, donc qui jouent plus. Ok, d'accord, tout ça, je comprends. Moi, je te dis juste que quand un entraîneur arrive, au bout d'un moment, tu dois jouer sur la fibre psychologique aussi. Même si ça a été compliqué, il y a eu changement de dirigeant, il y a eu changement d'entraîneur, il y a eu des échecs, des grosses claques. Mais non, quand je regarde le calendrier et les derniers matchs de Bordeaux, franchement, chapeau d'être aussi optimiste que ça. Moi, j'ai envie de croire et envie de voir Bordeaux redevenir.
Tu crois pas que j'ai envie de me défenestrer? J'y crois.
Moi, le premier.
Regarde-moi ses yeux, regarde-moi ce charisme. J'ai envie de courir après lui.
Et écoute, moi, je suis né en 78. Je peux te dire que j'ai vu Bordeaux. J'ai grandi avec Bordeaux, Saint-Étienne, Nantes. Ces clubs-là, forts, très forts dans le championnat. Donc moi, oui, j'ai envie de revoir. Je suis nostalgique de ces années-là. De voir Bordeaux très fort et dans le haut du tableau. J'ai envie. Pas de voir Bordeaux comme cette année en Europa League ou Bordeaux comme ses derniers matchs en championnat. Mais il y a quand même une crainte parce que il s'est trompé, mine de rien. Il a pas apporté ce qu'il devait apporter. Oui, changement de tactique. Oui, il y aura des recrues. Mais cher, c'est un bon choix. Mais il faudra d'autres joueurs. Créer quelque chose. Et surtout, tu m'inquiètes, c'est que les joueurs, ils sont tellement à la rue aujourd'hui. c'est que bah tu peux pas vendre tout le monde.
Non, donc, mais il y en a qui seront encore là.
Bien sûr.
Oui, mais on passe au dossier suivant.
Comment ils vont se remettre en place? Parce que là ils ont été horribles avec l'arrivée de Paulo Sousa depuis le début. Donc juste parce qu'ils vont partir en vacances et parce qu'il va y avoir Mécher et un autre et un autre.
Non, ils vont
les mecs ils vont arriver, ils vont dire aujourd'hui j'ai envie. Mais non, mais il dégage les dans ces
cas-là.
Ils vont dégager.
Anthony, merci beaucoup.
Ouais, merci, bonne soirée.
Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi, Anthony, le DVD de Creed 2. Alors, il n'y a pas Jérémy Lopez qui joue Ivan Drago, parce que c'est ton
non,
fils.
Non, on m'a demandé, mais je pouvais pas, je répète.
Voilà.
Donc, ouais, autant... je l'ai déjà vu, il n'y a pas possibilité d'avoir un ballon ou un maillot pour mon fils.
Bah. Ah, écoute, là, j'ai le t-shirt de l'after, si tu veux pas le DVD.
Non, j'en ai déjà 6.
6.
Bon, alors j'ai plus rien. Là, écoute, Anthony, on a fait le tour.
Voir, si j'ai d'autres chaussures, je t'envoie mon pied gauche si tu veux.
Bon, ben voilà, je garde mon DVD alors. Bah, l'Olympique Lyonnais.
Ça sert à rien.
Ah. Messieurs, dames. Alors, depuis ta tribune, non, mais il s'est passé plein de choses.
La rencontre avec Jean-Michel Aulas.
Ah oui, ça c'est important quand même.
Alors voilà, vas-y. Donc, alors, la tribune où tu...
Ouais.
Où, en fait, c'est la tribune d'un supporter éploré, quoi, finalement, complètement déprimé même.
Ouais, moi je voulais juste, avant d'en parler, et c'est pas de démago du tout, mais je voulais juste dire que moi je suis pas le porte-parole des supporters de l'OL. Mmh. J'ai beaucoup trop de respect pour les supporters de Lyon, que moi j'ai écrit ce truc en tant que supporter, sans penser que ça allait prendre cette ampleur-là, et j'ai pas du tout la prétention de représenter la parole des sup. Mmh. Ils sont.
Tu fais bien de le dire.
Non, mais c'est important parce que.
Bon, on va se voir pour chaise.
Ah ouais.
Non, voilà. Mais on n'est pas des porte-parole, mais t'as raison. Ouais. Mais t'as écrit ça. Ben je vois. J'ai lu tes mots.
Ouais.
Je me suis tellement retrouvé dans ce que tu disais.
Non, mais toi, transposé. Tu dis plus ou moins que t'es un porte-parole.
Mais je suis pas un porte-parole, pas du tout. Ah, mais je suis pas du tout un porte-parole.
Arrête, toi.
On lui dit tout dans le couloir. On lui dit tout dans le couloir.
J'ai entendu aussi.
Mais n'importe quoi.
Voilà. Moi, j'ai j'étais malheureux depuis pas mal de temps, et je sentais une lassitude qui était qui prenait de l'ampleur chez les supporters. Pas tous, c'est pour ça qu'il y en a qui sont très contents et j'ai rien contre. Mais je sentais qu'il y avait une lassitude à défaut d'une colère. C'est-à-dire que avant ça gueulait, il y a eu des crises à l'OL, ça pétait, ça gueulait, ça se calmait. Et là, ça s'éteint, ça, c'est des petits feux, mais il y a plus de colère et ça m'a fait flipper, vraiment. Je me dis, putain, les mecs, on n'ose même plus gueuler, quoi. On n'ose même plus gueuler.
Alors
c'est pas une catastrophe. Il y a pas une catastrophe industrielle à Lyon, mais il y a des choses qu'on peut améliorer. On a le droit de le dire. Et en fait, j'ai écrit ça parce que
la défaite contre Dijon.
Ouais, c'est-à-dire que, mais j'aurais pu l'écrire avant, mais ouais. Ça prenait tellement de place que le supporter ça a été Bruno Genesio et même le club a tellement été défendu, a tellement eu peur des reproches. Qu'il y a une défense un petit peu agressive vis-à-vis des supporters. Et c'est-à-dire que tu pouvais même plus prendre la parole, de mon point de vue. Tu pouvais pas plus dire, putain, ça joue pas bien, on se fait chier, ou ça joue mal, il y a un truc qui manque, et ça fait longtemps. Et sans te faire insulter, parce que moi c'est des insultes, pour moi, en tant que supporter, quand t'entends, et ça, je voulais pas en parler, mais je suis obligé, quand t'as un mec comme Raymond Domenech qui est pas au club mais quand même qui est proche du club et qui est l'image, une image du club, quand t'as Raymond Domenech qui dit les débiles mentaux des tribunes, qui dit mais c'est pas possible ça, c'est pas possible. Ouais, enfin. Donc moi j'ai écrit ça. Après voilà, et c'est toujours un truc où en fait tu ne connais rien au foot, t'as pas le droit de trop te parler parce qu'on a peur de l'échange. Et je trouve qu'il y avait un manque d'échange et j'ai écrit ça.
Ben là, t'as provoqué les gens.
Pour une idée utopique de dire, putain, si c'est un peu lu par quelques personnes, c'est cool. Voilà. Bon, je pensais pas que ça allait être lu par Jean-Michel Aulas. Vraiment.
Qui t'a appelé et tu l'as vu après?
Ben, en fait, j'ai écrit ce texte. J'avais été invité l'année dernière à une ou deux émissions d'un média lyonnais, indépendant olympique et lyonnais, pour parler de l'OL, dans un truc positif. Quand ça n'allait pas là, je sais plus si c'était sur Twitter ou par SMS, je dis putain, j'ai écrit un texte en sortant de je jouais le soir, j'en ai marre, j'ai écrit ce truc pour me décharger quoi. Et je dis qu'est-ce que je fais? Je le fous sur Facebook, en même temps c'est un peu ridicule, et je l'ai envoyé
au gars du site.
À Razik Brik. Et il m'a dit non, mais c'est très touchant en fait, si tu veux on peut le publier si tu veux. Je dis vas-y, et mets mon nom parce que au pire je me ferai insulter, mais c'est important qu'une parole.
En fait, t'as réalisé une espèce de fantasme de milliers de supporters qui vivent des trucs qu'ils peuvent pas exprimer. Alors nous, dans l'after, on en reçoit plein au 32-16 là qui viennent dire voilà, moi je suis super heureux ou soit je suis super en colère.
C'est que c'est le supporter rêvé de Daniel Riolo. Il voudrait qu'il y ait que des gens comme ça sur Twitter.
Non mais attends, c'est intéressant parce que finalement, t'exprimes ton truc de supporter lambda et puis bah, finalement. Le sentiment d'avoir été écouté quand même.
Ouais. Et
en jusqu'au
fait,
président.
Ce que j'ai développé en rapidement en fait parce que j'ai fait d'une traite, c'était surtout de comme on avait l'impression de rien, ceux qui se plaignaient n'y connaissaient rien.
Ouais.
Je dis non, je vais l'expliquer quand même. Et ça a déjà été fait, je n'ai rien inventé. Des gens plus calés que moi l'ont fait, l'ont dit, on dit différemment d'autres choses, sont pas d'accord avec tout, peu importe, mais ça a déjà été fait, j'ai rien inventé du tout. Mais ce que j'ai voulu dire c'est dire putain, je vais prendre le temps de détailler et de dire qu'on n'est pas non plus taré et qu'il y a des raisons pourquoi on a mécontentement et de déception quoi, sans agressivité, parce que je trouve que je l'ai relu entre les répètes cet après-midi pour me remettre au fait. Je trouve que il y a beaucoup de respect pour les gens, pour Jean-Michel Blas et même pour Genesio et d'amour pour le club quoi.
Tu parles principalement quand même de ce que vivent les supporters dans les tribunes, du ressenti général dans la tribune quoi.
Je crois, après moi j'y suis pas dans les tribunes, mais ce que je veux dire c'est que moi j'avais l'impression que les supporters étaient atroces, on n'en pouvait plus de Genesio, qu'il y avait une violence énorme, et je trouve qu'il faut juste relativiser, c'est pas atroce non plus. Je trouve que à Lyon les supporters sont quand même respectueux en globalité, je vais pas caricaturer.
Tu l'as bien allumé d'ailleurs, hein, Genesio. Hein, tu y es allé sur Genesio. Dire qu'il y avait jamais de fond de jeu, qu'il y avait rien quoi.
Oui, ce que j'ai dit. Tiber.
Alors attends, pour finir. Donc là, tu rencontres Jean-Michel Aulas.
Oui.
Et comment ça se passe?
Ben en fait, j'étais en répétition quand le truc, on m'appelle 2 heures après. Et je reçois un message et je croyais que c'était une blague en fait.
D'attendre 2 heures après la publication?
Ouais, 2-3 heures après, ouais.
Ah bah d'accord. Donc il est vraiment.
Et en fait,
Twitter.
C'est pour ça que c'est peut-être ce que j'ai écrit. Je crois pas que ce soit moi ou alors je me gourre, mais ce qui a été dit, c'est parce que ça a été relayé aussi énormément, parce que mon portable s'est éteint tellement que j'ai eu une notification sur Twitter et 2 mails. J'ai reçu des mails, mais sans déconner, j'ai dû en recevoir des milliers. J'ai même pas tout lu quoi.
Ah ouais.
Des milliers de mails, mais alors je vais peut-être me faire insulter ce soir, mais je me suis aucun reproche quoi. J'ai eu que des mails de remerciement et pas de haine contre le club. Juste de remerciement, merci d'avoir fait passer ce message-là. C'est super si c'est entendu. Merci parce que c'est ce que je pense. Depuis longtemps, j'ai ça sur le cœur et c'est triste parce que bon. Et alors que c'est pas catastrophique, la situation du club est pas catastrophique et c'est pour ça que j'ai fait, parce qu'il y a un grand espoir.
Mais Aulas, il te dit quoi quand il dit?
Eh ben j'arrive en fait et on se retrouve dans un café le lendemain matin.
Le lendemain matin?
Ouais.
C'est un truc de...
Mais il était à Paris, il est pas venu pour moi. Hein.
2 heures après la publication.
C'est pas le café du commerce, rassure-moi.
Non. et donc j'arrive, et moi, c'est-à-dire que je débarque dans un café, peu importe. Et c'est une mezzanine et je vois Jean-Michel. Je vois Jean-Michel Aulas en haut, et je vois des mecs en bas. Je dis putain, c'est des molosses, je vais me faire éliminer, quoi. Alors pas du tout, les mecs, c'est des clients lambda. Puis je monte et ils m'accueillent et on a parlé 2 heures et demie. Et en fait, d'abord, il m'a remercié de mon texte, de l'intérêt que je portais au club, enfin voilà. Quoi.
Il t'a offert le poste de Gérard Rouillet?
Non. Il m'a remercié, il m'a dit qu'il n'était pas d'accord avec tout. Et à partir de là, on a développé quoi, mais plein de pensées, c'était très large. C'est pour ça que je peux même pas en parler. C'était il y a presque 2 mois, mais c'est-à-dire que j'ai été plus cash, je trouve, dans le rapport avec lui, direct, que sur l'écrit.
Mais surtout, il y a un truc, c'est que lui, il doit avoir besoin de ce genre de rapport. Parce que dans une entreprise, dans toute entreprise, c'est pareil, tu vas pas parler au patron, comme toi, venant de l'extérieur. En gros, en interne, il doit globalement se faire cirer. Le boss, président, vous avez
surtout
raison, machin. Quand quelqu'un vient de l'extérieur et qu'il lui dit des trucs cash comme ça, bon, pour lui, ça a un vrai intérêt au fond.
Moi, et à la fin de l'entretien, je reviendrai après sur ce qu'on s'est dit, peut-être s'il y a le temps, mais à la fin de l'entretien, c'est ce que je lui dis, c'est que moi, j'aime le club depuis que je suis gamin et j'aime pas le club plus qu'un autre. Plus que les gens du club et des supporters. C'est mon amour à moi. Mais je lui ai dit, moi j'aime le club, j'ai aucun intérêt à avoir fait cette lettre. Si ce n'est que c'est une petite douleur et je pense qu'il y a un truc à changer, à régler. J'ai aucun intérêt, moi je suis un homme de théâtre, je fais quelques films parfois, mais moi je suis un artisan du théâtre, je suis tout le temps au théâtre, j'en ai rien à faire. Les gens qui vont au théâtre se fichent du foot et ça m'apporte rien moi. Enfin à part un grand honneur et une grande fierté parce que j'ai pu dire tout ce que j'avais à dire et voilà. Et on a parlé d'énormément de choses. Lui aussi s'est confié sur beaucoup de choses. On s'est retrouvé sur des sujets où on était d'accord, d'autres un peu moins. Mais voilà, je lui ai dit que je suis pas rentré en détail, mais sur l'idée des chiffres, dire les amoureux de l'OL, on les connaît les chiffres, on s'en fout en fait. C'est important la régularité, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas là le débat se situe pas là. Voilà, moi je trouvais juste que Bruno Genesio, moi j'ai beaucoup de respect pour Bruno Genesio et j'ai peut-être été dur comme vous dites, mais moi j'ai jamais demandé à ce qu'il s'en aille, qu'il dégage, tout ça, c'est pas du tout ça. C'est que au final, quand on regarde les choses, Bruno Genesio avait un contrat de 3 ans et demi, quoi, si on rajoute les 6 premiers mois, il les a fait. Il a jamais été jeté comme un malpropre, ni par Michel Aulas.
Il a fait du bon boulot.
C'est un contrat qui a été respecté. Et puis, et je suis sûr que l'année prochaine, il y aura du Genesio dans l'équipe. C'est normal. Mais il faut
T'es sûr,
ça. Ben oui, mais c'est obligatoire. Et puis, il y aura des adjoints vont rester et il en aura besoin pour faire ce lien-là. Mais moi, je trouvais que comme je ressentais ça, alors j'étais un peu plus jeune, mais quand Aulas a ouvert à Pathé, à Jérôme Sédou, ça faisait peut-être 12 ans qu'il était déjà au club. Il a senti qu'à ce moment-là, il fallait passer un cap. Il l'a fait. C'était très risqué. L'année d'après, avec Anderson et Vérel et tout, il y a Maribor, ils se font éclater, on va pas en Ligue des Champions, les supporters viennent à Tolavologe pour tout péter parce que ça va pas. C'est la crise, ça aurait pu craquer. Mais cette prise de risque-là est essentielle pour moi. Et cette prise de risque-là, elle est essentielle maintenant, je trouve, parce que ça fait longtemps qu'on est à le stade.
Il y a prise de risque avec Juninho et Silvinho. Qu'est-ce que t'en penses?
Je suis très surpris. Je pensais pas que ça allait être une prise de risque à ce niveau jusque là.
Ouais.
J'espérais un coach. J'avais deux idées. J'espérais un coach avec un palmarès, parce qu'on dit que c'est pas important, mais c'est très important un coach avec un palmarès. Quand un joueur écoute un coach qui a gagné des choses en tant qu'entraîneur, tu l'écoutes pas pareil. Et puis c'est quelqu'un qui a prouvé, voilà, c'est tout. Donc je pensais à ça, ou alors quelqu'un qui avait une grande expérience d'adjoint avec des grands entraîneurs ou des grandes équipes. J'avais pas pensé à des sélections.
Tu pensais genre Arteta, un truc comme ça?
Ouais, Arteta ou d'autres, peu importe. Je pensais que ça pouvait être ouvert à ça. Juninho, je trouve que c'est extraordinaire parce que Juninho, il nous avait parlé, Jean-Michel Aulas, de Juninho qui a failli venir il y a quelques années. Je pense que ça n'aurait pas été le bon moment parce que c'était pour accompagner Bruno Genesio. Et en fait, le changement n'aurait pas été le même, même si ça pouvait marcher. Mais là, le changement est... Moi, je lui ai dit, mais j'ai un grand respect pour ce que vous faites. Jean-Michel, je lui dis, c'est fou ce que vous faites. Et je le remercie de l'écoute, et c'est pas grâce à moi, parce que s'il le fait, ce qu'il a envie, personne force Jean-Michel Aulas. Personne. Mais je pense qu'il est intelligent pour écouter les choses, et il savait avant de me voir que c'était peut-être le moment. Peut-être, je suppose. Mais, c'est une excellente idée, parce que, Juninho arrive, et s'il vient, c'est pas, pour rien, et l'acte le plus fort, je trouve, pour le club, c'est que Jean-Michel Aulas lui donne le choix de l'entraîneur. Ça, c'est ouf, en fait, quand on pense à l'OL, à ce qu'on
au fonctionnement olassien.
Comme on peut l'imaginer des fois à tort ou à raison.
Mais certainement qu'il n'avait pas le choix. En prenant Juninho, il est arrivé, il a dit, écoute, moi, si tu me veux, je reviens, ça va faire du bruit, oui, parce que c'est normal, Juninho à Lyon qui revient, directeur sportif. Juninho, il voulait avoir un homme de confiance aussi. Il est persuadé que Silvinho, ça va être l'homme de la situation, qui vont fonctionner comme Baptiste le disait à Bordeaux, main dans la main, dans le recrutement, dans l'animation, pas des séances, parce que Juninho aura plus de recul, mais dans l'animation du groupe, de la vie du club, chacun va bien être protégé de toute façon. Et,
ouais,
je pense que c'est important, mais tu sais... Bien sûr qu'il écoute, et s'il t'a reçu, t'as dû le voir, donc si on voit, c'est quoi, au mois de mars?
Je l'ai vu en avril, mi-avril, je crois.
Ah non, tu l'as vu mi-avril. Donc
ouais, quand j'ai écrit mon truc, le lendemain, c'était mi-avril.
C'était après l'élimination
en Coupe de France. La conférence de presse.
Oui, donc qui était hallucinante. Mais vous avez eu chaud quand même, parce que t'imagines que si on en croit ses propos, et il n'y a pas de raison, parce que Genesio les a confirmés, ça veut dire que s'il n'y a pas cette élimination en Coupe de France, qui n'aurait pas dû arriver,
il prolonge. Je sais pas.
Bah oui,
moi j'en suis pas sûr.
C'est ce qu'ils ont dit.
Il a dit aujourd'hui, j'entraînerai la saison prochaine.
Ah oui, mais
c'est énigmatique. Oui, est-ce que ce sera toujours à l'OL ailleurs ou ailleurs.
Oui, de toute façon, bien sûr.
On lui souhaite. On va continuer le débat avec Mickaël dans quelques instants, qui est supporter de Lyon, et puis David Baptiste et Kevin, bien sûr. L'after revient tout de suite avec également Nantes et le Real au programme avant minuit. À tout de suite.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là avec Jérôme Breton, Kevin Diaz, avec Jérémy Lopez, sociétaire de la Comédie Française, donc pour parler de l'OL, supporter de Lyon, depuis que t'es tout petit. Donc,
j'ai pas eu le choix, ouais.
T'as pas eu le choix. Voilà, bah, c'est comme ça que c'est mieux d'ailleurs, la transmission. N'est-ce pas, monsieur Le Caplin, qui est là également, Baptiste.
Ah, j'étais pas fan de l'OM, moi, c'était.
Oh mince.
Moi, c'était compliqué, hein.
Bon. C'est comme ça.
C'est Zidane et Dugas qui ont décidé. Bordeaux-Milan.
Ah ouais?
Ça a tout fait. Premier match de foot, j'ai regardé. Bordeaux-Milan, c'est.
La frappe de Dugas, là.
Ah ouais,
pas mal, hein.
Le cri aigu
de Michel Platini. Ça lui arrive. C'est bien.
Alors que Jérémy, c'était Eugène Cabongo.
Ouais, James Deba.
James Deba, oui.
C'est quoi le premier match?
James Deba, extraordinaire.
Le premier match de Lyon que tu te souviens que tu as vu, c'était quoi?
Je me rappelle deux buts. Donc, il y a les buts de Deba, l'équipe de. Après le match, le premier match au stade, je me rappelle des trajets en bagnole avec mon oncle et mon grand-père qui
les m'amenaient. Avant-matchs, c'est génial.
Mais je me rappelle pas des matchs. Le très gros souvenir au stade, le plus près, c'est le 8-0.
Ah oui.
Contre Marseille. Et après c'est le Marseille en 98, novembre 98, 2-1 contre Marseille avec Caviglia qui marque le premier but et le 2-1 le but d'un Violo.
Pierre Lègue,
il était pas encore là. Ouais. Philippe Violo, grand tireur de coup franc.
Ah ouais, Philippe Violo.
Qui met un but extraordinaire face au virage sud. Extraordinaire.
Premier match, Rennes-Bordeaux 0-0 en décembre.
Ah voilà.
Tu vois un bon 0-0. C'était le seul stade en Ligue 1 qui était en Ligue 1 à l'époque, j'allais voir tous les Rennes-Bordeaux. J'en ai vu des purges.
Non, Bordeaux-Toulouse, ça doit pas être mal aussi.
Le pire match de l'histoire de Ligue 1, c'est un Bordeaux-Rennes commenté par Jadon Rességuier.
Voilà. Alors, Mickaël est là, il est supporter de Lyon. Mickaël, bonsoir.
Salut tout le monde.
Salut Mickaël. Alors, quand t'entends là notre débat lyonnais, quand t'entends Jérémy, tu fais le même. T'as envie de réagir. Il a raconté son expérience surtout avec Jean-Michel Aulas là. Jérémy, on a aussi parlé de la situation et de ce qui va se passer maintenant. Qu'est-ce que t'as envie de nous dire sur l'OL toi ce soir?
Ouais, déjà, j'ai juste envie de répondre juste à Jérôme parce que je sais même plus si tu m'énerves ou si tu me fais marrer. Parce que quand je t'entends dire vous avez eu chaud parce que si vous n'étiez pas fait éliminer contre Rennes, je ne les aurais re-signé. Je pense que cette phrase c'est tellement ridicule que je préfère me marrer plutôt que de m'énerver.
T'as pas dit ça, t'as dit ça?
Oui,
pourquoi elle est ridicule cette phrase?
C'est pas grave.
Pourquoi? Pourquoi? C'était bien que Genesio reste?
Enfin, moi j'étais pour le maintien de Genesio avec
tant mieux,
si t'as revu et remodelé.
Ah bah oui, on peut pas être d'accord de toute façon, ça c'est sûr.
Voilà. En plus, c'est pas le débat, on n'a pas le temps, mais tant qu'on veut dire, heureusement que vous avez été éliminé contre Rennes en demi-finale de Coupe de France.
Bah, moi je te le répète, heureusement.
Je trouve cette phrase ridicule, mais bon. Après,
mais heureusement, heureusement, avec un grand H.
Bon alors, Juninho là, même si tu voulais garder Genesio, ça te plaît?
Ben, Juninho, oui, je vous ai déjà dit la semaine dernière que pour moi c'est exactement la bonne personne au bon moment. Il n'y a pas trop de débat sur ce choix-là. C'est un nouveau poste qu'on crée à Lyon, le directeur sportif. Aulas prépare un petit peu aussi l'après Aulas parce qu'il n'est pas éternel. Et je pense qu'il n'est pas mieux que lui pour occuper ce poste.
Donc il y a une stratégie générale d'Aulas aussi de désengagement progressif.
Oui, enfin ça va être progressif, hein, les gars. Vous attendez pas à ce que les prochaines ils deviennent transparents. Hein. La première petite crise de résultats, ce sera lui dans les micros. Hein. Donc comme d'habitude, comme il a toujours fait. Mais oui, c'est on va dire une stratégie à moyen terme ce coup-ci. Mmh. Par contre sur le site avec Silvinho, je veux dire. J'espère faire confiance. Enfin, je fais confiance à Juninho, comme tous les Lyonnais, on espère tous pouvoir lui faire confiance et on va dire qu'on lui fait confiance. Par contre, ça ressemble à très fortement à un pari. Et quand j'entends certains commencer à dire qu'il va falloir lui laisser du temps, etc., je suis absolument pas d'accord avec ça. Un pari, c'est soit tu le gagnes, soit tu le perds. Il y a pas d'entre deux.
Donc j'ai bien entendu ce que t'as dit à Jérôme. Hein, c'est ton avis. Maintenant, je vais te dire. Moi, je respecte ton opinion, mais je vais te dire, j'ai l'impression que tous les gens qui sont pro Genesio, bah, ils vont être, on va dire, assez, alors on va dire.
Silvinho sceptique.
Voilà, Silvinho sceptique, exactement. Merci Gilbert. Si tu veux, laisse-moi juste expliquer 30 secondes. Oui. C'est-à-dire que voilà, toi, tu représentes un peu la mentalité française, sans te manquer de respect, mais un peu à l'ancienne. C'est-à-dire ce que voulait plus, en tout cas, Jérémy dans sa tribune. Laisse-moi finir encore une fois. C'est-à-dire que Alors, Aulas, on respecte beaucoup, je pense, tout le monde, que ce soit pour ou contre Lyon. On respecte beaucoup le travail d'Aulas et celui de Genesio, mais qui était un peu un travail ces dernières années de boutiquier. C'est-à-dire un travail de, alors on est dans les trois premiers, il faut rembourser le stade, il faut que les finances soient dans le vert, il faut qu'on soit absolument en Ligue des Champions pour économiquement être viable, parce que pour nous le PSG c'est une autre planète. Voilà, pour moi c'est tout ce qu'il faut pas dans le football français, en tout cas aujourd'hui. Même si ça a marché à une certaine époque, moi ce que je veux d'un club comme Lyon, mais on a parlé de Marseille, on peut parler de Monaco, on peut parler de Bordeaux à leur échelle, je veux des clubs qui débutent la saison avec un entraîneur qui dit pas « Oh, mais si on finit deuxième dans le championnat du best of the rest », c'est-à-dire comme disent les Anglais, le meilleur des autres, après le PSG ce sera bien. Non, c'est pas bien. Lyon, ils ont un budget qui est... énorme, ils doivent jouer le titre. Et Genesio, il s'en va parce qu'il a pas joué le titre pendant 3 ans, il a fini à des lustres du PSG. Donc c'est un échec. Un an, ça peut arriver. 3 ans, pour moi, c'est pas possible. Voilà.
Okay. Bien sûr,
je te laisse répondre. Vas-y, vas-y. Et juste pour finir, donc voilà pourquoi moi je pense que aujourd'hui en France, et on le voit avec d'autres entraîneurs, dont je citerai même plus le nom parce qu'on l'a assez dit, il y a un peu les romantiques et les boutiquiers. Moi je préfère les romantiques, c'est-à-dire des gens qui font venir des gens comme Gignigno avec des entraîneurs qui ont jamais eu leur chance, et moi je serais indulgent avec ce genre d'entraîneur parce qu'au moins peut-être que on va arrêter de se faire chier dans notre tribune et on va voir du jeu, du football vers l'avant, peut-être qu'on va gagner un match 4-0, qu'on va perdre le 3-0, c'est pas grave.
Alors réponse de Mickaël et ensuite l'avis de Jérémy là-dessus.
Ouais, parce que là il y a plein de trucs avec lesquels je suis d'accord et pas d'accord. Déjà un pro Genesio, ça n'existe pas à Lyon. C'est les anti-Genesio qui existent, parce que Genesio, si c'était appelé Genesigno par exemple, il n'aurait pas eu le même nom.
Mais ça veut rien dire, coupez-lui le micro, c'est bon, là, c'est entendu.
Bah non, il a le droit de s'exprimer, Mickaël, c'est tout à fait normal. Vas-y, Jérôme.
Des bêtises.
Attends, laisse, Jérôme, Mickaël, c'est à toi.
On s'est fait chier toute l'année à voir des matchs de Lyon, arrête.
Il faut m'excuser, déjà c'est 23h20, vous m'appelez si c'est pour me dire coupez le micro dès qu'on n'est pas d'accord.
Bah ouais, mais je suis désolé.
Bien sûr, Mickaël, tu as la parole, je te la garantis. Vas-y, Mickaël.
Donc je dis si c'était Genesigno, ça aurait pas été pareil. Je vous rappelle qu'une pétition avant même son premier match, Genesio. Après on peut faire bilan de Genesio. C'était les années de transition, d'accord, qu'on appelle les années de transition. Moi je regarde juste les résultats. Bah,
non, c'était avec Rémi Garde les années de transition.
On passe les huitièmes en Ligue des Champions, etc. Et maintenant quand j'entends par contre dire, alors moi déjà le Beaujolais je m'en tape. Donc quand je dis que je suis
on est d'accord, on est d'accord. T'as le droit. En fait c'est bien ce que j'ai dit. On n'a pas la même philosophie.
Cette phrase après je vous laisse le micro, vous l'avez tout le temps. Le Beaujolais je m'en fous. Moi si on me dit aujourd'hui on joue à 11 derrière, on met des grands coups de tatane devant et on finit champion de France, je signe maintenant.
Mais voilà. Ça n'arrivera pas.
Mais d'accord, tu gagneras jamais une Coupe d'Europe. Je te le dis en mettant des grandes coups de tatane
le championnat, même le championnat.
Quand je t'entends dire avec Silvinho, parce qu'il s'appelle Silvinho, il y a un match on va gagner 4-0, tu l'apprends on va perdre 3-0 et c'est pas grave. Bah là j'arrive plus à suivre, je comprends pas.
Parce que moi je vais au foot pour voir des émissions. Je vais pas au foot pour voir des coups de tatane devant, Mickaël. Après, chacun son avis.
Mickaël, en tout cas, merci de t'être exprimé. On n'est pas d'accord. Enfin, t'es pas d'accord avec Jérôme, ni avec Kevin.
Juste, on est d'accord que c'est pas en mettant des grands coups de tatane devant qu'on devient champion de France.
Oui, c'est un peu compliqué. Non, mais Jérémy, toi, par rapport à ce que dit Kevin, là, tu adhères ou
t'es romantique ou boutiquier? Non, ben, un peu des deux. L'idéal, c'est de faire le mélange des deux.
Bien sûr.
Faut pas tout jeter, quoi. Mais, sur les Genesigno, tout ça, moi, je m'en fous, quoi. C'est-à-dire que Genesigno a choisi Silvinho.
Je sais quoi,
et je le suis, et je suis Jean-Michel Aulas, c'est tout. Mmh. Il a pris ce risque-là. Et c'est à nous de le suivre. C'est tout.
Directeur sportif.
C'est tout. Il a choisi Genesio. Il y a eu une pétition. Une pétition. Il n'y a pas eu des insultes. Il n'y a aucune banderole. Il y a eu une banderole à la troisième, deuxième saison. Je veux dire, c'est pas une chasse à l'homme, quoi.
Moi, je vais te dire.
Il y a eu des belles choses, anti-Genesio.
Voilà, il faut reconnaître ce qu'il a apporté.
Bien sûr, je l'ai dit.
Il est arrivé à un moment où c'était important qu'il soit là. Il a stabilisé un club qui était à la dérive, qui partait à la dérive. Il l'a bien redressé et il a assumé. Derrière, c'est vrai que moi, ça fait plus d'un an que je dis que ce club-là, il stagne et il régresse. Avec quand même des joueurs qui sont arrivés et qui pouvaient te faire passer un cap. Ça, ils ont pas passé le cap. Alors certains me disent, oui, la Ligue des Champions, le huitième de finale, c'était génial. Ouais, bon, écoute, ok, d'accord, oui. On va pas dire que c'est un échec, la Ligue des Champions de Lyon cette année. Mais en termes de qualité de jeu, en termes de spectacle, moi, ce qui m'a choqué, c'est au début d'année, je suis allé commenter dans les matchs de Champions League. C'était le match contre Hoffenheim, je crois. Les joueurs sont annoncés numéro 1, numéro 2, numéro 1, Bruno Genesio, et là, une bronca. Et là, je me suis dit, ah oui, encore, le mal, il est quand même profond, parce que quand tu te fais siffler autant dans ton stade, alors que les résultats étaient bons, hein, mais oui. il venait de gagner à Manchester City, donc tu pouvais pas.
Non, mais c'est pour ça que je suis pas d'accord avec Mickaël quand il disait que si ça plaît Genesinho, moi je m'en fiche qu'il soit brésilien. Oui, écoute, moi je m'en fiche qu'il soit brésilien, portugais, chinois ou italien, on s'en fiche. Moi, s'il m'avait ramené Jean-Marc Furlan pour l'année prochaine à Lyon, j'aurais dit pourquoi pas, c'est une idée, on essaye. J'ai jamais eu d'un grand club, pourquoi pas. S'il m'avait ramené Laurent Blanc, je sais que j'aurais vu du football, il y avait pas de souci. Maintenant, je trouve que Silvinho, c'est un choix qui est frais, c'est un choix qui est audacieux, donc pourquoi pas. Mais s'il s'appelait Sylvain au lieu de Silvinho, ça m'allait.
Jérémy. Nous, on n'a rien à dire, parce qu'on n'a rien vu, et il faut les laisser s'installer et travailler, c'est tout. Et moi, je le suivrai, c'est tout. Le truc, c'est que, qui a inventé Silvinho, Ramirez, machin? C'est Bruno Genesio. C'est juste de la com loupée un peu. On s'en fout de savoir si il y a un problème avec les entraîneurs étrangers. Moi je m'en tape qu'ils soient étrangers ou pas. Je rêve pas d'avoir un étranger à Lyon. Je m'en fous. Je veux avoir des idées nouvelles parce que le club a besoin d'être enrichi parce qu'il a une énorme base française. Maintenant c'est un grand club français Lyon.
Bien sûr.
Et il a besoin d'idées nouvelles qui viennent de l'étranger ou d'autres, mais de méthodes.
Non mais j'ai rien français.
La seule com réussie c'est nous avec Pep Genesio.
Bien sûr. Non mais Gilbert,
Jérémy peut-être aussi cette votre fois.
Jérémy parlait de
c'est
méthode.
Nous qui va entraîner.
Mais le problème Jérôme, c'est que la méthode. Les entraîneurs français ont quand même beaucoup la même méthode. On en a souvent parlé ici. La formation des entraîneurs, etc. L'idée de jeu. Mais quand Mickaël, l'auditeur, nous dit. Moi, des grands coups de tatane devant, ça me suffit du moment qu'il y a les résultats.
Mais
il y a beaucoup de supporters, il y a beaucoup trop d'entraîneurs français qui pensent comme ça.
Non, mais tu le sais,
malheureusement. Alors, s'il y en a qui sont pas contents qu'on aille chercher des Portugais, qu'on aille chercher des Italiens, qu'on aille chercher des Brésiliens, bah, il faut que les entraîneurs français nous proposent.
Allez, mot de la fin, Jérémy.
Ouais, c'est simplement, moi, j'ai une minute ou pas? Je trouve qu'il y a 15 ans, on avait moins besoin de maîtres de foot, tacticiens, en France. C'était pas ouvert à ça. Il y avait Suodo qui a transmis à Donwex, c'est tout. Enfin, pour moi, il y avait pas d'étrangers. Depuis, parce que c'était pas les mêmes joueurs. C'était des joueurs, les joueurs français de Ligue 1.
C'était pré-Harry Bosman.
Oui,
une ouverture.
Non, mais c'est-à-dire que même dans les années 2000, les joueurs étaient autonomes sportivement,
exactement,
sur le terrain, tactiquement et mentalement. Ils se géraient tout seuls. Moi, je peux parler des joueurs de l'OL. Ils se géraient, ils poussaient des coups de gueule et ça s'autogérait. Ça n'est plus le cas. Ces gens-là, les jeunes, je trouve, sans les caricaturer, ils ont besoin d'être alertés, d'être mis en alerte par une nouvelle pensée, une nouvelle méthode, et qu'ils soient étrangers ou pas, on s'en fout. Une nouvelle façon d'être entraîné, une nouvelle façon de voir les choses, d'appréhender le foot. C'est tout. C'est pas mieux ou moins bien que Bruno Genesio. C'est différent. Et le club a besoin de cette vision.
Aussi.
Parce que cette vision, le jour où elle y sera plus, on sera riche de ça.
Stop, il faut qu'on prenne.
On t'a dit.
Sans parler des droits TV.
Non mais.
Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de foot à la télé.
Il est malade,
ce Giro. Non, Gilbert.
Il est malade. Il faut retenir, toi.
Gilbert, il y a trop de foot à la télé. Il faut de la qualité. Sinon, les gens restent plus. Au stade, ils y vont plus. Il y a trop de foot à la télé.
Venez au théâtre.
23h42.
Allons à la Comédie Française.
Dans quelques instants, le plus grand des acteurs de l'after. Fred Hermel, messieurs dames.
Devant Rocco Siffredi.
Ah oui, c'est vrai. Qui est venu l'autre jour.
Je sais.
Qui n'est pas la Comédie Française.
Je sais, on a passé un moment.
Et vous l'avez eu en clair.
C'est la Comédie Italienne.
C'est vrai.
La Comédie Adela.
C'est une des rares de voir.
Vous l'avez eu en crypté, Rocco.
Juste au bout de la soirée, en clair, en plus.
On raconte. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Ils sont là, Jérôme Bretagne, Kevin Diaz, plus ce soir Jérémy Lopez, donc de la Comédie Française, supporter lyonnais, et Baptiste Le Caplin de la Comédie Bordelaise, supporter des Girondins. C'est vrai. Ça n'existe pas la Comédie Bordelaise.
Comme si cette saison, si.
Cette saison.
Comédie dramatique. Mais bon, on est plus sur un seul en scène.
Alors, on devait parler de Nantes. On le fera demain. Parce que vous savez qu'à Nantes, il y a un nouveau maillot qui est sorti aujourd'hui avec un nouveau blason. Et là, les supporters nantais sont fous de rage parce que le club l'a fait sans concertation. Et ça, quand tu changes un blason, évidemment, moi je suis le premier. Je veux pas qu'on change mon blason. On me garde mon truc avec ma cathédrale et ma cigogne. Et venez pas me le changer.
Voilà. Ça va changer, ça sera
le bon. Mais sûr que non.
Bah écoute,
à Strasbourg, on a changé, on est revenu en arrière. Voilà, monsieur, l'histoire est là. Bah, donc demain, on parlera de Nantes et de ce changement de blason. Mais tout de suite, on accueille, comme il se doit, messieurs dames, en direct de Madrid, Fred Hermel. Fredo, bonsoir.
Percé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur. Putain, mais je viens de rater mon casting, mais je suis nul. Putain, je connais par cœur.
Mais non.
Misérable vengeur d'une injuste rigueur.
Bravo Fred.
Bon, laisse tomber, Fred.
Mais je reprends. Je suis désolé, je reprends.
Il lit son écran, ça se trouve, ça c'est inquiétant.
Attends. Merci jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une juste rigueur. Misérable vengeur d'une, et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile et m'en abattu cède au coup qui m'a tué. Si près de voir mon feu récompensé, oh Dieu, l'étrange peine, en cet affront mon père est l'offensé, et l'offenseur, le père de Chimène, que je sens de rue de combat, contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse, il faut venger un père et perdre une maîtresse, l'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras, réduit au triste choix, au de trahir ma flamme, de vivre en infâme, des deux côtés mon mal est infini. Faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène?
Oh, bravo, Lucide, bravo.
Jérémy, tu m'emmènes avec toi, s'il te plaît.
Bravo,
bien qu'on ait le français, s'il te plaît. De chez lui. Là, il est en slip.
C'est vrai, j'ai fait vraiment son note.
En slip, c'est autre chose.
C'est vrai que j'ai un peu merdé parce que je suis très ému parce que être dans l'after avec un sociétaire de la Comédie Française, ben voilà. Parce que tu sais, Jérémy, quand j'avais 15 ans au lycée Gambetta d'Arras, j'ai fait Perdican
On
bâtit avec l'amour de Musset, tu vois. Voilà. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de
bon, maintenant ça suffit. Ça va. Là, on parle du Real.
Voilà, chicos. Oh là là.
Bon,
j'ai merdé.
Faut l'inviter.
Je suis pas prêt. Je suis pas prêt.
Bon, maman, un autre soir quand vous serez plus là, je vous ferai les bronzés. Azur, en Olympe, sans bonder d'un cri.
Ah, y a une bête.
Oui,
y a une
bête.
Ça va vite.
Oh là là.
Avec une sorte de cupule verruqueuse et tronquée, je sais plus, bref. Alors, Fred, 11 pipes du Real. Je sais que t'as bossé comme un dingue.
Allez, fais-nous rêver.
C'est compliqué.
On va découvrir tes équipes. On va démarrer par le 11 types, qu'on va découvrir sur RMC Sport. Pour ceux qui nous écoutent sur RMC, il faut que tu, bien sûr, que tu, on te laisse détailler tout ça.
Ouais, faut expliquer pourquoi.
Et attention, au milieu. Première information capitale, je la donne en préambule.
Non.
Benzema n'est pas dans ton équipe type.
C'est pas vrai.
Pas encore.
Raoul non plus.
on y va, Fred, on t'écoute.
Dans les buts, là, de toute façon, vous posez la question à n'importe qui, c'est Casillas, bien entendu. Ça, y a aucun doute. En latéral droit, Michel Salgado. En défense centrale, Sanchez, fils, parce qu'il y a eu Sanchez père aussi, mais c'est Sanchez fils. Manolo Sanchez fils. Sergio Ramos, c'est évident. Latéral gauche, la question se pose même pas, Roberto Carlos. Donc j'ai fait un 4-4-2 avec, Michel, milieu droit, Hierro, milieu.
Oui, c'est lui.
Grand joueur, extraordinaire, on va expliquer pourquoi. Hierro, milieu défensif, Zidane, bien entendu.
Mais c'est pas Samuel Michel, c'est Michel.
Michel González del Campo. Il s'appelle exactement Miguel González del Campo. Ouais. Rento,
Jacques Guépéro avec Michel, ils auraient pu jouer ensemble.
Rento, c'est, je connais pas.
Rento.
Paco Rento, simplement, c'est le seul joueur au monde qui a gagné 6 fois la Ligue des Champions.
Voilà.
Calmé un peu, bonhomme.
Ok.
Il est président d'honneur du Real et il va bien. Il a 86-87 ans. Et devant, Di Stefano,
comme débile de foire.
Et Cristiano Ronaldo.
Donc pas de Raoul.
Raoul, je l'ai mis sur le banc parce qu'il fallait choisir entre, tu sais, pour devant, Ronaldo, Di Stefano et Raoul.
Fred quand même. Et un 4-3-3 avec Michel sur le banc et Raoul. Avec Ronaldo et Di Stefano, ça aurait été bien aussi.
Mais tu sais pourquoi dans une équipe type, il faut faire des périodes, et il est évident qu'il fallait au moins deux représentants de la Quinta del Buitre. La Quinta del Buitre, vous savez, c'est déjà une
génération fabuleuse. Oui, donc il n'y a pas Butragueño qui est là.
Mais Butragueño, il est sur le banc, donc il fallait ou Michel ou Butragueño, donc, et Michel, c'est...
Ah bah donne ton banc, là.
Et il y a Redondo un peu,
alors, ouais, ben là aussi, ça pouvait être Redondo, et on aurait même pu mettre Makelele quelque part, mais voilà.
Tu mets pas Hierro.
Ah ouais. Vas-y pour le banc.
Alors le banc, attends, je le reprends parce que je l'ai plus en tête.
Moi je l'ai ton banc.
Redis-moi alors, il y avait Raoul.
T'as mis Paco Buio, gardien remplaçant.
Bien sûr, oui. Ouais.
T'as mis Carvajal, Camacho,
ouais.
Redondo, Copa,
ouais. Ah oui, bah oui, hein.
Raoul et Butragueño.
Exactement. Copa, c'est quand même 3 C1, 3 Ligue des Champions. Hein, donc Raoul, parce que c'est dur, l'un des meilleurs. Bah oui, c'est tellement dur. Et Butragueño, parce que c'est la Quinta del Buitre. Alors, vous savez, cette génération fabuleuse, fin des années 80 et années 90, a gagné 6 Ligas, 2 Coupes UEFA, et s'est toujours planté en Copa d'Europa, en Ligue des Champions. Et ça reste leur grand vide. Mais c'est une équipe fabuleuse. Une équipe fait avec... Michel, par exemple. Les gens vont s'étonner. Mais Michel, c'est 20 ans au Real Madrid. Entre le moment où il arrive... Jeune joueur et où il s'en va, grand joueur très élégant. Donc voilà, je comprends qu'on puisse avoir envie de mettre d'autres joueurs, mais là, Je pense qu'il y a les quatre grandes périodes du Real représentées, c'est-à-dire la première, Di Stefano, avec ses cinq Ligue des Champions de suite, Rento qui en gagne six, la Quinta del Buitre, les Galactiques, et puis l'équipe actuelle.
Bon, bah alors,
ou celle récente.
C'est quand même la classe. Hein.
Ouais. Fred, je reste quand même... Il manque Raoul, quand même.
Mais dans ce cas-là,
Raoul, il est titulaire.
Mais non, mais c'est vrai que Raoul, ouais. C'est
Raoul, Fred, quand même. Raoul, c'est le capitaine.
C'est énorme, mais devant, c'est Ronaldo et Di Stefano.
Ouais, donc c'est Di Stefano. Ouais, ouais. Non, mais en 4-4-2, c'est sûr que c'est.
Hugo Sanchez, alors.
Bah, c'est pareil. Hein.
Ouais, mais c'est la Quinta del Buitre. Donc moi, j'ai choisi Michel dans la Quinta del Buitre.
Et l'entraîneur, alors? Pardon.
Ancelotti. Ancelotti, parce que il a changé l'histoire du Real. Le Real a été 12 ans sans gagner la Ligue des Champions, vous vous souvenez, et 6 ans de suite éliminé en 8e de finale, et Ancelotti a créé une équipe et un esprit qui a permis ensuite d'en gagner 3 de plus. Parce que quand vous regardez l'équipe qui se termine là, qui se meurt là, puisque il y aura beaucoup de changements, c'est l'équipe d'Ancelotti. C'est avec celle-là qu'il gagne.
Del Bosque, ouais.
Ouais, alors Del Bosque, là aussi, bien sûr, on peut hésiter avec Del Bosque, ouais. Mais
c'est Jérôme qui a soufflé Del Bosque.
Non, moi je vais te dire, je suis sûr, je te connais par cœur, que t'as hésité à mettre Zidane sur le banc et sur le terrain.
Ah
non.
Oui.
Oui, j'ai hésité. Oui, ouais, bien sûr. Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr que j'ai hésité. Simplement, je veux voir Zidane cette année avec une équipe qui va construire lui. Voilà, c'est ça qui.
Sinon, on aurait pu mettre Zidane sur le banc et Raoul en 10.
Mais c'est vrai que Raoul, j'ai longtemps hésité, mais à un moment, on peut pas jouer à 15 non plus.
Une équipe pipe.
Ça c'est drôle.
T'as mis un latéral droit français.
Ce qui est génial, c'est que l'équipe type du Real peut être l'équipe type d'une équipe de Ligue 1. Oui, c'est ça.
Non, franchement.
Alors, l'équipe pipe, là, il y a de quoi faire parce que c'est les joueurs qui ont déçu.
Je suis sûr que l'équipe pipe, elle fait troisième.
Non. Franchement, là, j'ai vraiment mis.
Qu'est-ce qu'il a pas mis, Julien Faubert?
Si. Il l'a mis ailier droit,
quoi. Il joue pas en haut.
Alors.
Il joue pas ailier droit.
L'équipe pipe s'affiche sur RMC Sport News. Tu peux nous la décrire, ouais. Fred, pour ceux qui nous écoutent sur RMC, on y va.
Le gardien argentin qui s'appelait Albano Bizzarri. Nul.
Congo.
Très bien, on s'en souvient pas de celui-là.
Non, bah oui, mais faut, il était nul. Latéral droit, un Brésilien, Claudimir Vitor. Qui a dû jouer 3 matchs, qui avait été acheté en 93. C'était à l'époque un président qui s'appelait Mendoza et qui avait des coups de cœur comme ça sans s'y connaître beaucoup au foot. Il avait acheté Vitor. Il avait aussi en 90 acheté Spasic, un défenseur central serbe qui lors de ses premiers matchs contre le Barça, il met un but contre son camp.
Un peu un nom de médicament.
Voilà, il joue plus jamais. Après, Jonathan Woodgate, vous vous souvenez?
Oui, Woodgate, bien sûr.
Woodgate, c'est le galactique qui a pas marché.
Woodgate, il a pas joué.
Mais il a été blessé tout le temps. Tout le temps.
Il est Newcastle, c'est ça?
Ouais, mais ça c'est.
Exactement. C'est l'un des, à l'époque, je crois qu'il est défenseur le plus cher d'histoire.
Mais ouais, mais c'est ça. C'est typique le style de joueur qu'on met dans une équipe type
qui coûte cher, qui
investit beaucoup, et voilà.
Donc tu mets Gareth Bale, tu mets Michael Owen.
Parce que Faubert, tout ça, ces joueurs.
Faubert,
ça coûte rien, quoi.
La défense latérale gauche, mon préféré.
Drenthe.
Oh là. rappeur de son
rappeur,
état.
Rappeur, pas joueur. Voilà. Rappeur, pas joueur.
On peut faire un 11 de rappeur, dans les foot actuels.
Milieu défensif. Thomas Gravesen.
Alors le pire. Alors en termes de coup de soleil, un Hollandais, il était danois. Hein.
Danois.
Alors lui, mais les matchs de pré-saison, il était rouge. Il pelait en fin septembre. C'est
Gravesen qui avait la particularité d'être mangeait pas de viande. Comment on dit déjà?
Végétarien.
Non, mais en plus, il prenait pas de médicaments. Il prenait zéro médicament. Il avait un gros problème. C'est-à-dire qu'une blessure chez quelqu'un avec quand tu prends un peu d'anti-inflammatoire, etc., bah, c'est
vite. Il refusait, lui.
Lui, ça prenait 2 mois, quoi. Tu vois, enfin, c'était, mais, Alors, après, je vous
sais qu'il était, il était physique, en plus.
Ouais, il envoyait.
Non, mais justement, souvenez-vous, en 2006, avant la Coupe du Monde, il y a un match dans le plus beau stade du monde, le Félix Bollaert, à Lens, un match entre la France et le Danemark. Le Danemark n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Et Gravesen, je m'entendais plutôt bien avec lui, et il vient me voir un dos, il dit, tu vois, alors je fais, il dit en espagnol, mais moi je veux le faire en accent, tu vois ton Zidane là en amical, je vais le casser, je vais tous les casser les Français avant le Mondial. Et il avait été hyper violent pendant ce match. En plus, c'était un fou. Donc voilà, donc il méritait d'être dans l'équipe type.
Ensuite, au milieu, t'as Mickey?
Alors, il y a Freddy Rincon, le Colombien. Il a dû jouer 3-4 matchs. Altintop.
Le joueur turc. On dirait un méchant dans une série Netflix.
Vous souvenez? Altintop.
Altintop.
C'était pas un mauvais joueur.
Un vrai nom de footballeur, lui.
Erreur de casting.
Et devant?
Alors, j'ai mis à droite Julien Faubert, mais je le regrette.
Ouais.
Ah, Fred,
parce que c'est un bon mec.
Là, mais t'étais sensible.
Ah, non, mais pas, parce que tu peux pas faire Perdican et mettre Faubert.
Non, il est bon mec ou pas. Bien sûr que c'est un bon mec, Julien, mais en plus, il a rien à foutre là-dedans parce que il a rien coûté au club.
Ben non. Et
donc,
tu mets Gareth Bale.
Il avait raté ses trois jours.
Gareth Bale, un mec qui te met deux buts en finale Ligue des Champions.
Ah oui, c'est vrai quand même.
Ouais, excuse-moi. Robinho. Vous vous souvenez de Robinho?
Ah bah oui, bien sûr.
Ah oui, c'était magnifique pendant 20 minutes, les premières 20 minutes qu'il a joué à Cadix. Voilà, c'est tout.
Bah, City, très bonne playlist dans les vestiaires.
Et sur la 50 points, là?
Edwin Congo.
Il sort d'où,
Colombien? Colombien, en plus, il est très sympa, il habite à Madrid, je le connais. Vous savez combien de matchs il a joué avec le Real Madrid?
Combien?
Zéro. Il est resté 3 ans, il a joué 0 match. Il était prêté, mais pendant toute une saison, il jouait que les matchs amicaux, tu sais, ou quand il y avait des tournois et tout ça, il jouait que les matchs amicaux.
Et
il
n'a jamais joué.
Rafa Benitez, bien sûr. Un mec qui explique à Modric qu'il a pas le droit de jouer avec l'extérieur du pied et qui dit à Cristiano, viens mon petit gars, je vais t'expliquer comment on tire les coups francs, mérite d'être l'entraîneur.
Mais c'est pas si il était podologue à la base.
Ah, ben c'est ça.
T'aurais pu mettre Quentin.
Merci Fredo, c'était brillant. Demain on fera Liverpool. On continue la série des grands clubs européens.
Et bravo.
On a un petit cadeau pour conclure. Si vous aimez le foot féminin, il y a le match amical France-Chine le 31 mai prochain à Créteil. On vous offre des places sur le compte Twitter de l'After et Team Dugas. Donc allez-y si vous voulez gagner vos places.
C'est plusieurs places. C'est un package, non? C'est ça.
On en a quelques-unes.
Oui, c'est ça. Je sais pas si on va.
Jérémy, merci d'être venu.
Merci à vous.
À la prochaine, dans l'after. Et Baptiste, pareil.
Baptiste, tu seras invité à Créteil pour le fro. Quoi?
Le foot féminin?
Ouais.
Je vais suivre le foot féminin.
En Chine, non, mais à Créteil. Là,
t'as une bordelaise.
Du Rochel.
Allez, c'est fini. L'after revient demain soir à 22h. Il y aura du Nice et du Monaco au programme, notamment. À demain.
RMC. L'after foot.